Bien bonjour. Quelques petites précisions avant de commencer. On va se positionner sur l'utilisation du drone, mais vraiment en tant que professionnel. Il y a des conditions d'utilisation qui sont relativement différentes. Au cours de la présentation, on verra de temps en temps quelles sont les différences qui sont flagrantes. L'utilisation en tant que professionnel, c'est des contraintes supplémentaires, mais un champ de possibilités qui est beaucoup plus large que l'utilisation, ce qu'on appelle loisirs et compétition. Petite définition, par abus de langage, on dit un drone. Initialement, c'était quand même des engins qui étaient à utilisation militaire. La définition, en fait, parle de des engins militaires pilotés à distance ou dont le vol est programmé à l'avance, ou des fois les deux. On peut très bien avoir un vol programmé à l'avance avec un contrôle qui se fait à distance. Nous, on utilisera plutôt le terme de multirotor, puisque voilà, on est équipé avec 4, 6, 8 moteurs, ou le terme multicoptère. Et puis des fois, on rentre même dans les précisions sur le nombre d'hélices qu'on va avoir, donc quadricoptère, hexacoptère, etc. Par abus de langage, on continuera à utiliser le mot drone, tout le monde se comprend plus facilement. Une petite précision concernant la temporalité de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans la mesure où, vu l'essor du drone, la réglementation, elle est en pleine effervescence. Il y a eu, notamment depuis janvier 2016, des nouveaux points qui ont été abordés sur la législation. Il y a encore un énorme trou, c'est par rapport à la formation. Puisque aujourd'hui, il faut avoir une habilitation de pilote d'ULM. C'est un peu la clé pour pouvoir commencer. C'est ce bouquin-là qu'il faut apprendre. Là-dedans, il y a peut-être 10% qui sont vraiment utiles pour le drone. Le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il est question qu'il y ait une véritable formation qui délivrera un véritable diplôme. Mais on n'en est pas encore là. On attend. Il y a une petite compétition entre une législation européenne et une législation française, mais pour l'instant, on n'en est pas encore ici. Et puis la technologie aussi, elle avance énormément. Le drone qu'on va vous présenter aujourd'hui a 2 ans et demi, presque 3 ans. Il a été fabriqué par des ingénieurs de Polytech. Mais en 3 ans, en fait, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué. Moi, je commence à lorgner un peu sur tout ce qui se fait de plus récent aujourd'hui, notamment avec de plus en plus d'aide au pilotage, de détecteurs d'obstacles, que ce soit sur les côtés ou en dessous. Voilà, chose que moi j'ai pas sur celui-là, donc qui recommence à plus à ressembler à une tondeuse volante que ce qui peut se faire aujourd'hui, quand même. Le plan, moi je vais dans un premier temps rentrer un peu dans le détail sur la partie réglementaire, et puis ensuite on verra les applications dans la recherche, vraiment positionnées par rapport à ce que nous on fait ici à la MSH. Il y a d'autres utilisations que j'aborderai pas ici, puisqu'on les a ni testées ou on n'a pas encore les moyens techniques de les réaliser. Moi j'aborderai dans les applications de la recherche la partie imagerie aérienne, et puis je laisserai la parole à mon collègue Thomas. Sur des parties spécifiques, notamment la photogrammétrie. Et ça sera complété par Mathieu, avec qui on a fait quelques réalisations aussi. Voilà, je vous disais, l'utilisation professionnelle exige donc le certificat d'aptitude. C'est un QCM qu'on passe, on est encadré par. Ça se fait à l'école de l'aviation civile. Un QCM, je ne sais même plus combien il y avait de questions. Les QCM étaient super faciles jusqu'il y a 2 ans. En fait, on pouvait bachoter. Il y avait sur plein de sites sur lesquels on retrouvait des questions récurrentes. Je me suis beaucoup entraîné dessus. Et en fait, moi, le jour de l'examen, il y avait plein de questions qui étaient bien plus compliquées. Et c'est une tendance qui se confirme aujourd'hui. Avec cette volonté un peu de limiter et durcir l'accès au pilotage de drones. Ça exige aussi ce qu'on appelle une DNC, une déclaration de niveau de compétence. Donc ça, c'est l'exploitant qui la délivre. Ça assure qu'il y a bien une personne qui soit responsable du télépilote. On peut être la même personne. Je vous expliquerai un peu plus tard parce que le CNRS, je suis agent CNRS, a mis les mains dans le cambouis et nous a bien dépatouillé l'affaire. Au tout début, j'ai été à la fois exploitant, télépilote, donc je m'autorisais à voler. C'était une situation un peu bizarre. Le fait d'être professionnel demande le dépôt d'un manuel d'activité particulière, ce qu'on appelle une MAP. Ça va définir et documenter l'activité et la façon dont sont satisfaites les obligations réglementaires. En fait, on va préciser le champ d'intervention, si on fait de la photographie, si on va faire de la surveillance. Il y a toute une série d'activités. On peut faire aussi, on peut tirer des banderoles, par exemple. Tout ça, c'est des activités qui sont spécifiques. Mais la partie la plus importante du MAP, c'est que ça va donner toutes les spécificités techniques du drone. Donc les plus basiques, le poids, les fréquences utilisées, les fréquences de transmission entre la radiocommande et le drone, les fréquences utilisées pour le retour vidéo, la puissance des moteurs, voilà, toutes ces informations-là. Ça va donner aussi des informations sur les systèmes de limitation, s'ils existent ou pas. En gros, la législation nous oblige à nous placer dans un cadre de vol à vue. Donc on est plafonné à 150 mètres de hauteur et un rayon de 150 mètres. Donc ça apparaît dans le MAP. Et puis apparaît aussi dessus tout ce qui va être lié à la sécurité, tous les organes de sécurité. Un qui est le plus courant s'appelle le Retour to Home. En fait, en cas de souci ou de perte de signal, le drone a la capacité, grâce au GPS, de venir se poser à peu près là où il a décollé. Sur les plus gros drones, il y a des systèmes de parachutes, voilà, qui sont dans certains cas obligatoires. Nous, pour l'instant, on ne rentre pas dans ces niveaux-là. Donc, je vous disais, depuis avril 2017, c'est le CNRS qui est redevenu l'exploitant, qui est devenu l'exploitant. Donc, c'est lui qui est notre interlocuteur direct avec la Direction Générale de l'Aviation Civile. En tant que structure étatique, c'est son propre assureur, donc c'est lui qui assure aussi le rôle de responsable civil. Il a déchargé tous les directeurs d'unité des responsabilités, parce que voilà, certains directeurs ne voulaient pas avoir cette responsabilité là et puis nous décharge, nous en tant que télépilote, de pas mal de tracasseries administratives. Donc toutes ces premières là nous on a pas mal galéré pour trouver une assurance qui faisait la responsabilité civile. On avait fini par en trouver une, mais c'était un peu compliqué. Et puis, il va être... la DNC, c'est lui qui va s'en occuper. La mise à jour de toutes les maps, enfin de la map dans laquelle figurent tous les télépilotes, c'est le CNRS qui s'en occupe. Le rapport qu'on appelle le bilan annuel d'activité, qui va donner par télépilote le nombre de vols, les soucis rencontrés, etc. Tout ça, c'est le CNRS. Nous, notre seule obligation qu'on a aujourd'hui... ça va être que je le retrouve. Tac, je l'ai plus, si il est là. C'est un carnet de vol. Donc là, en fait, on va voir tous les vols qui ont été réalisés pour la MSH. Et au sein de chaque vol, alors ça va, on va prendre un des derniers. Figure en fait le nombre de vols qui ont été effectués. Moi, par exemple, sur le mien, j'ai des batteries qui ont une dizaine de minutes d'autonomie. À chaque fois que je vais changer de batterie, ils vont considérer ça comme un vol. Donc apparaissent aussi les noms des chercheurs avec qui je travaille, qui sont du coup couverts par la responsabilité civile du CNRS. Et puis le personnel technique, du coup, c'est les personnes supplémentaires qui peuvent venir avec nous sur la mission. Le type de scénario, ça je vous expliquerai après. L'activité qui est prévue initialement. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Un descriptif de la mission. Et puis au retour du vol, il y a un débriefing pour éventuellement signaler les incidents qu'on aurait pu avoir, incidents aériens. J'en ai jamais déclaré pour l'instant. On a eu des soucis, mais pas des vrais incidents aériens. Donc, un point qui est très important, c'est la préparation d'une mission. Selon l'endroit où elle va avoir lieu, on va être dans deux scénarios. Nous, on est concerné que par deux scénarios pour l'instant, le S1 et le S3. Le S1, en fait, c'est tout ce qui va être rural, on va dire, et le S3, tout ce qui va être en zone, en agglomération. Les scénarios S2 et S4 sont des vols, ce qu'on appelle hors-vue, c'est-à-dire qu'on va planifier une trajectoire qui peut être sur plusieurs kilomètres, mais là c'est d'autres spécificités. Et, enfin, pour l'instant, nous, on n'a pas eu vraiment le besoin de remplir ces besoins-là. Donc, en gros, pour préparer un vol, je consulte des cartes aéronautiques. Donc, c'est dans les 10% que j'ai appris là-dedans, la consultation des cartes aéronautiques en fait partie, quoi. Donc, là-dessus, on a beaucoup d'informations. On va avoir des informations. Donc, là, vous voyez par rapport à la première flèche. On a une zone qui s'appelle une CTR, c'est une zone qui est contrôlée. En fait, ça représente l'emprise de l'aéroport de Tours. Donc l'aéroport de Tours, il se situe à peu près ici. Vous voyez, la piste doit faire 2 km. L'emprise est beaucoup, beaucoup plus large. Donc tous les vols qui auront lieu à l'intérieur de cet espace devront au préalable avoir été déclarés à la base aérienne, qui est gérée administrativement par des militaires. On va aussi s'apercevoir que les zones orangées sont des zones d'agglomération. Donc là, c'est une autorisation préfectorale qu'il va falloir que j'ai. Et puis, certaines zones sont interdites. Là, par exemple, on a la centrale nucléaire de Chinon. Et en dehors de toutes ces zones, on se place en vol en scénario S1, donc beaucoup moins contraignant en termes d'autorisation préalable. Alors juste avant, pour préparer ces vols, on va avoir des outils comme ce logiciel en ligne qui s'appelle Maxet, qui va nous donner des infos plus précises et puis une gestion plus simple, notamment avec de l'opacité. Donc là, le grand carré qui figure au centre représente l'emprise de l'aéroport de Tours. Donc avec la zone la plus foncée correspond à la limite de la piste. Là, on est autorisé à 0 mètre. Voilà, c'est pas compliqué, on vole pas. Et au fur et à mesure, ça fabrique des paliers de 30, 50, 60, 100 mètres sur le bleu. Et au-delà, on repart à 150 mètres d'altitude. Et puis apparaissent tout ce qui va être zone de parachutisme, les héliports. Là, on retrouve bien notre grande zone contrôlée. Et puis, point très important, du coup, c'est de savoir si on est en S3 ou en S1. Donc toutes les zones orangées qui correspondent à des agglomérations vont nous obliger d'être en vol S3. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, à nous couper. Donc on va rentrer dans les applications pour la recherche. Cette jolie photo qu'on a faite lors d'une mission à Chinon. Donc moi je vais vous parler des utilisations qu'on a faites jusqu'à présent. Donc on a utilisé le drone pour de l'étude du paysage, et notamment sur les vignes et les habitations dans le Bourgueillois. Et en fait, l'élévation permettait de voir l'emprise de l'habitat au sein des parcelles agricoles. Donc il n'y avait que l'élévation qui nous permettait de travailler dessus. On l'a utilisé aussi dans le cadre d'un projet qui s'appelle UVED. C'est un web documentaire pédagogique. Donc c'est plein d'aspects qui sont abordés concernant la Loire. Et là, pour illustrer des passages sur la dynamique fluviale, on a commencé, on n'a pas fini, puisque pour l'instant, on n'a fait qu'un seul vol à Bréhémont pour étudier les évolutions des îles. Donc effectivement, c'est plus simple de les étudier depuis en étant en hauteur. Mais il faudrait qu'on y retourne à des moments différents de crue ou de Loire basse. Ça nous permet toujours, dans le cadre de cette étude à Bréhémont, de voir la trajectoire des lits secondaires qu'on distingue là à peu près dans la végétation, ce qu'on ne peut pas voir quand on est à ras du sol. Et puis là, c'est un test qu'on a fait sur un autre bras secondaire. Donc c'est trois clichés qui ont été rassemblés sur Photoshop avec Photomerge, qui permet d'avoir une vue panoramique d'un élément complet. On l'a utilisé aussi pour étudier le déversoir de la Bouillie à Blois. Donc la petite photo en fait qui est là correspond à ce qu'on voit sur la rive opposée, c'est-à-dire qu'on voit pas grand chose. Il n'y a vraiment que le drone là qui nous permet de voir que la grande étendue sur laquelle il y a des terrains de rugby, servirait en cas de crue à diriger la Loire vers le Causson, qu'on distingue, enfin pas vraiment là, mais qui est tout au fond. Donc là, voilà, la vue aérienne, elle est explicite. On est toujours dans des supports qui sont pédagogiques, donc pour bien expliquer le principe du déversoir, cet angle de vue paraissait intéressant. Et puis je vais passer la parole à Thomas, donc qui a été mon testeur de drone. On a fait les premiers vols ensemble à Cormery.
Exactement, et je vais vous en parler. Est-ce qu'avant vous auriez des questions un peu précises sur le côté technique ou administratif du vol du drone? Parce que moi j'en ai peut-être une, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Si je suis doctorant et que je veux faire appel à tes services, comment ça se passe du coup?
Donc en fait, c'est un service qui est un service MSH, donc il est proposé au laboratoire fédéré par la MSH. Et puis, oui, c'est ça, en fait, c'est un peu la condition.
Ok, du coup, il faut que je fasse une demande écrite.
Oui, alors il y a un formulaire qui est en ligne sur le site de la MSH qui permet de faire des demandes de services pour toutes les personnes de la MSH, et il y a une petite case spéciale sur le drone.
Ok. Et ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il faut s'y préparer. Enfin, vous l'avez compris, je pense, dans la présentation, mais en amont. Prévoir quand même.
Ouais, j'ai oublié de dire que la demande préfectorale, par exemple, j'ai un minimum de 5 jours. Donc, je pourrais jamais faire un vol du jour au lendemain sur une zone habitée, en tout cas. Quoi.
Et du coup, au niveau de la zone géographique, enfin, de la MSH, parce que moi, par exemple, je travaille en Moselle. Et est-ce que c'est possible d'envisager des prospections aériennes au drone sur ce coin-là ou
Alors, rien ne l'empêche, dans la mesure où tous les frais de mission qui vont être liés à ce déplacement seront pris en charge par le labo qui fait la demande. C'est pas la MSH qui finance mes déplacements. La MSH, en fait, fournit gracieusement le service, mais va pas... Se mettre des frais supplémentaires. Mais après, oui, on peut étudier une mission de plusieurs jours.
C'est la même chose pour le département de l'Indre.
Est-ce que la problématique est la même pour le département de l'Indre-et-Loire?
Oui,
on a des frais de mission aussi qui sont
supportés
par le laboratoire, ouais. Et à ce moment-là...
Alors, nous, on a trouvé un système qui coûte moins cher. C'est qu'en fait, on vient me chercher ici. On prend tout le matériel, on me déplace sur le lieu. C'est ce qu'on fait avec le conseil départemental. Mmh. On a été amené à aller plusieurs fois à Chinon, on va y retourner. Et du coup, pour éviter tous ces soucis financiers, si on me déplace, ça coûte moins cher.
Vous êtes unique dans le coin, ce qui fait que vous avez peut-être commencé à avoir une liste importante de gens qui vous demande ces services ou pas?
Oui, c'est un service.
Vous avez un calendrier plus dur que la préfecture.
Oui, et puis c'est pas ma mission principale à la MSH. Je fais pas que pilote de drone surtout, quoi. Je touche à tout le domaine du multimédia, du son et de l'image. Donc j'ai aussi plein d'autres missions à remplir en plus de celle de piloter le drone. Donc
En fait, il faut mieux vous voir avant de faire une demande à la préfecture.
De toute façon, on passe systématiquement par une rencontre sur la faisabilité, sur les besoins de la mission, avant que je dise oui ou non.
D'accord.
Il y a toujours une étude, en fait, avant.
Je vous remercie.
Mais c'est Jean-Philippe qui fait la demande à la préfecture, c'est pas vous, par rapport à ce que vous venez de dire. Il se charge de faire la demande à la préfecture, donc c'est pas à vous de la faire avant de le solliciter.
Il s'occupe de tout, mais il faut juste lui demander bien en avance.
Voilà.
Moi, j'avais une petite question dans la veine de ce que disait Thomas tout à l'heure. Quand on est un laboratoire extérieur à la MSH, comment on fait?
Merci Lydia pour ta question.
Genre à la boule, par exemple, de l'université, mais Jean Lirby, par exemple. Un labo de l'université, mais pas affilié directement, enfin, pas fédéré autour de la MSH. J'imagine que c'est une prestation.
Ouais, on peut... Le cas s'est jamais présenté jusqu'à présent. Mais ça arrivera peut-être, et peut-être qu'on peut transformer ça en prestation, ouais. Mais il va falloir chiffrer. Pour l'instant, c'est un peu...
C'est pas dans les tuyaux encore.
Bah, pas encore. Mais un jour, la question se posera peut-être.
Donc là, il y a Poitiers sur Internet qui demande si tu peux préciser les conditions. Il précise pas de vol seul, etc.
Pas de vol seul. Alors, ça, c'est la méthodologie qu'on va mettre en place. Thomas va l'expliquer un petit peu. Mais en gros, on n'a pas le droit de... Enfin, logiquement, on n'a pas le droit d'être cadreur et pilote. Même si, quand on s'aperçoit aujourd'hui que la nouvelle génération de drones, les Phantom 4 par exemple, sur la télécommande, on a le retour vidéo. On est bien dans une condition de vol à vue. Donc le pilote doit avoir constamment son appareil sous les yeux. Et on verra une photo tout à l'heure avec Thomas. En gros, le chercheur, et puis c'est plus pertinent, le chercheur a un retour vidéo. Il va pouvoir dire au télépilote plus près, plus loin, à droite, à gauche. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on fonctionne. C'était ça la question de Poitiers.
J'imagine.
Parce que on a le droit de voler seul. Après. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de la prise d'image, il est conseillé d'être deux. Voilà. Après, je sais que sur la réalisation en cinéma, quand ils utilisent un drone, il y a un pilote et il y a un cadreur. Le cadreur va avoir son retour vidéo, il va pouvoir faire le plan qui l'intéresse, et le pilote se contente juste de voler et de garder son appareil le plus stable possible. Thomas.
Alors, Poitiers réagit. Il précise que le travail isolé est interdit au CNRS.
Ouais, d'accord. Merci, Poitiers.
Merci, Poitiers. Non, mais toujours deux, de toute façon, généralement.
Oh, sur les missions à caractère scientifique, oui, de toute façon, il y a toujours le chercheur qui m'accompagne, quoi. Toujours.
Qui est présent.
Hein ? Ouais. Ah, d'accord. Je sais pas s'il y a vu de loin Coulanger, les dati, ils marchent.
Ok.
Allez, je t'en passe la parole.
Est-ce que tu voudrais présenter le matériel après, à la fin peut-être ?
Juste, voilà, le fameux retour vidéo en question, ça ressemble à ça, c'est une sorte de tablette qui n'a pas une définition de foufou, mais qui permet quand même de voir ce qu'on est en train de filmer. Et de ne pas cadrer complètement à...
L'orientation de la caméra, c'est qui ?
Alors, moi, sur le drone qu'on utilise,
oui.
Qui est ici, on a une nacelle qui est une nacelle deux axes. En gros, je ne peux pas la faire pivoter. Donc,
d'accord.
Si on doit pivoter, c'est le drone qui va pivoter. Et elle est... Elle a donc 3 ans d'ancienneté, et en fait je n'ai que deux positions, une position horizontale et une position zénitale.
Donc ça c'est pour celui qui prend.
Alors ça
l'image.
c'est moi qui l'actionne. En fait, Thomas, quand on vole tous les deux, Thomas a le retour et c'est lui qui va me diriger.
D'accord.
En disant plus près, à droite, à gauche, plus haut, plus bas. Parce qu'à une certaine altitude, on se rend plus compte.
Ouais.
Et à Chinon, c'était flagrant. On verra plus tard sur la muraille.
Le zoom aussi, c'est vous.
Le zoom, c'est une GoPro, il n'y a pas de zoom.
D'accord.
Pas pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un nouveau drone. Un jour.
Un jour. Ok. Bon, je vais vous parler un petit peu du cas d'étude sur l'abbaye de Cormery qu'on a pu... travailler avec Jean-Philippe. Moi, je travaille sur l'organisation de l'espace monastique, donc l'espace architectural en Touraine à l'époque médiévale. Voilà, pour résumer un peu le sujet. Donc, c'est dans mon partie de l'étude s'oriente vers l'étude des l'analyse des bâtiments, donc des vestiges qui sont encore en élévation aujourd'hui dans la petite ville de Cormery, qui est située à 20 km de Tours. Et donc, j'ai effectué beaucoup de relevés architecturaux à l'aide des technologies dites 3D, donc la lasergrammétrie. Donc c'est ce qu'on appelle le scanner 3D, hein. C'est un laser qui va tourner, un capteur laser qui va tourner et enregistrer un nuage de points, une empreinte 3D de la réalité, l'espace, et la photogrammétrie, qui est une technique un petit peu différente, et on a besoin là que d'un appareil photo, d'un capteur photographique. Genre la GoPro est un capteur d'appareil photo. Donc, je vous ai mis une petite définition un peu compliquée de la photogrammétrie. Clairement, c'est juste pour comprendre que ça existe, la photogrammétrie, depuis qu'on a inventé la photographie, hein, depuis la fin du 19e siècle. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt la correspondance d'images par corrélation dense. Okay, c'est vraiment la technologie qui a été développée à partir du développement du numérique dans les années 90, qui nous a permis aux chercheurs de développer des algorithmes et des logiciels super puissants pour permettre donc la corrélation dense d'images, l'assemblage en photogrammétrie. L'idée, c'est d'obtenir un modèle 3D, ça je pense que vous l'aviez compris, donc de manière plutôt automatique à partir d'images numériques qui ont été prises donc avec un capteur. L'appareillage des images entre elles, ça fonctionne avec des points homologues entre les images du même objet qu'on a photographié de divers points de vue. La qualité du relevé va vraiment dépendre du type de capteur, vraiment de la taille du capteur physique en fait. Sur un téléphone portable, ça va être un tout petit capteur, physiquement de quelques centimètres. Sur un réflexe plein format, ça sera un capteur de 24x36, un gros capteur qui permet d'enregistrer énormément de données, énormément de pixels. Donc nous, ce qui compte dans le relevé photogrammétrique, c'est la qualité, donc la taille du capteur, et enfin la distance à l'objet. Pour avoir l'appareillement des points homologues, des points similaires entre toutes vos images, vous devez donc avoir un fort recouvrement entre toutes vos images. Ce que je vais vous expliquer un petit peu mieux ici sur cette image. Ça, c'est le travail de laboratoire du MAP à Marseille, qui travaille beaucoup en photogrammétrie depuis de nombreuses années. Et donc l'idée pour faire un relevé photogrammétrique autour de ce bâtiment que vous avez ici en modèle filaire, c'est bien de se positionner tout autour de l'objet et de prendre là, on va dire une cinquantaine de photos assez proches avec un fort recouvrement entre chaque image pour que le logiciel derrière puisse reconnaître les points similaires et assembler toutes les images pour créer un modèle.
Deux questions.
Attendez. On va vous passer le micro. Il y avait une
question. Qu'on parle avec le micro pour les.
Ah, vas-y.
Quand tu dis fort recouvrement, ça veut dire que la seconde image recouvre une grosse partie de la première, c'est ça ?
Il faut qu'il y ait à peu près 70-80% de recouvrement.
Alors, je parle de GD, géométrie descriptive. Si vous voulez, quand vous faites des photos, est-ce que vous travaillez sur le même plan ? C'est-à-dire que si on travaille dans des blancs, plan biais, ça va même pas être 70, on va être à 90% de perte de l'image, non ? Comment vous travaillez ?
Alors, il y a différentes méthodes, ça a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, puisqu'avant, il fallait suivre une méthode assez complexe de photographie. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous pouvez... Il faut que chaque élément sur votre modèle 3D, il faut que chaque élément sur les photos soit au moins... sur trois photos différentes, on va dire. Chaque point, par exemple, un élément du décor, il faut que cet angle de bâtiment ici, il faut qu'il soit au moins sur trois photos pour pouvoir être enregistré. L'idée de base, en fait, c'est de se placer sur un plan horizontal, on va dire de tourner autour du bâtiment sur le même plan, à un mètre, on va dire de niveau un mètre, ici. Et vous pouvez faire après un deuxième tour à des altitudes différentes, un peu plus bas ou un peu plus haut, pour vraiment avoir les notions de profondeur dans les images. Et maintenant, les logiciels sont assez puissants. Si vous restez sur le même plan, les logiciels sont assez puissants pour faire un appareillement des points et la création d'un premier nuage avec vraiment ce qu'on appelle la carte profondeur. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous créer votre modèle dans un axe X, Y et Z.
D'accord.
En 3D.
Merci.
Donc ça, c'est vraiment un exemple de protocole d'acquisition d'images au début de la photogrammétrie. 50 photos, on a tourné autour de l'objet qu'on veut dessiner en 3D, enfin, qu'on veut modéliser en 3D. L'exemple, donc, entre chaque image, le logiciel du coup va vraiment détecter les points similaires entre chaque photo et il va faire un appareillement entre ces points. Ça, c'est une partie qui est gérée par des algorithmes. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, clairement. On va pas le faire manuellement, en tout cas. L'idée à la fin, c'est de générer un premier nuage de points complet de l'objet, ce qu'on peut appeler une espèce d'empreinte 3D en fait de la réalité. Donc là, c'est la définition, elle est assez bonne, mais on ne voit pas bien, mais c'est vraiment des points. C'est-à-dire qu'on est passé de pixels sur des images à des points dans un axe X, Y, Z, sur lequel on a aussi calqué une valeur colorimétrique à partir des pixels de l'image.
Là, ce qu'on voit, c'est un nuage de points qui est nettoyé déjà.
C'est un nuage de points qui est déjà nettoyé. Ouais. Okay. C'est pas moi qui l'ai fait là, donc c'est encore le travail de, que j'ai pris le PowerPoint du map à Marseille lors d'une présentation qu'ils avaient fait pour un de Micmac, le logiciel qu'ils développent au laboratoire. Donc j'imagine clairement que là le nuage est nettoyé. Je vais montrer un exemple après d'un nuage qui est pas encore bien nettoyé et de ce que ça peut donner. Donc ici sur la gauche vous avez l'exemple d'une empreinte 3D d'un nuage de points. Là ça se voit très bien. Hein. C'était l'exemple d'une grotte où c'est tous les points blancs ici. Dans le protocole de photogrammétrie, c'est la première empreinte qu'on va avoir qui nous donne une vision de la réalité. Après vous pouvez transformer ce nuage de points est passé en maille, en mode d'emmaillage. Donc c'est l'exemple que vous avez ici sur la droite. Donc vous allez relier les points entre eux en les triangulant, en paramétrant cette triangulation. Vous pouvez ensuite surfacer, c'est l'image qui est ici, cette maille. Et enfin, vous pouvez lui appliquer des textures. C'est l'image que vous avez en bas à droite à partir de l'information en colorimétrie contenue dans les pixels qui ont servi à faire le premier nuage de points. Alors, je vous ai mis 2-3 exemples de logiciels qu'on utilise pour la photogrammétrie. Vous avez un 2-3D Cache de Autodesk qui est un logiciel très simple qui se fait en ligne, qui est gratuit. Photoscan.
Qui va bientôt s'arrêter.
Ah bon ?
Ouais.
Incroyable.
J'ai vu passer une info, ils arrêtent.
Bon, c'était quand même le logiciel leader sur le marché en photogrammétrie, donc c'est quand même assez, c'est assez curieux, mais c'est le logiciel qu'on a utilisé d'ailleurs nous. Dans le cadre, en partie dans le cadre du relevé au drone.
C'est celui-là qu'on a utilisé.
Oui, Photoscan, oui. Ah, tu parlais d'Autodesk.
D'Autodesk, ouais.
D'accord, ok, 2, 3, enfin, je comprends mieux. Parce que Photoscan, ça risque pas de s'arrêter, ouais. Je pense.
Non, je pense pas.
Et enfin, Micmac de l'IGN, qui est développé donc, en partie par le MAP, si je ne me trompe pas, puis d'autres laboratoires, mais du coup qui passe surtout en ligne de commande, donc qui est sûrement le plus puissant des trois, le plus précis et le plus performant dans la recherche, mais qui est par contre est un peu plus difficile. À prendre en main. Nous, on a pu tester les trois types de logiciels dans le cadre des photos, en tout cas pour la tour. Alors là, je vais donner un exemple un peu visuel de ce que moi je recherche à faire en tant qu'archéologue du bâti, hein, en tant qu'historien du bâti, on va dire. C'est que j'utilise la 3D en fait pour revenir sur de la 2D. Parce qu'à la fin, sur mon nuage de points en 3D, je vais travailler à l'intérieur pour sortir des coupes, sortir des orthoimages, des images donc très précises sans déformation. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le voir comment les bâtiments ont été modifiés, structurés, c'est phaser le mur, comprendre comment le mur a été construit, reconstruit, déconstruit. Il y a là, sur un mur comme celui-là d'une chapelle, il y a clairement plusieurs phases de construction. Donc l'idée, moi, c'est que je revienne dessiner derrière, vraiment, en dessin par-dessus pour comprendre mon image. Le cas que je voulais vous montrer aujourd'hui, sur lequel on a travaillé avec Jean-Philippe, où j'ai dû faire appel à Jean-Philippe pour le drone, c'est celui de la tour de l'abbaye de Cormerie, c'est celle que vous avez ici en élévation, donc au milieu du village, et une vue un peu plus précise sur la gauche. J'avais pu relever l'ensemble de l'abbaye, hein, parce qu'on a le cloître en gros qui est comme ça ici, et d'autres bâtiments conventuels qui sont sur le côté. J'ai pu relever l'ensemble de l'architecture avec le scanner 3D sur un énorme relevé, un énorme nuage de points, mais j'ai eu énormément de problèmes pour sortir des données précises et enfin, qui était acceptable pour travailler sur la tour. Donc il y a plusieurs raisons qui s'expliquent. C'est la hauteur de l'édifice, il est beaucoup trop haut, et même avec des capteurs performants, avec un laser, le scanner 3D de la MSH aussi, la distance était trop importante entre le capteur et la zone donc à relever. J'ai également essayé de faire de la photogrammétrie à partir du sol, mais du coup c'était le même problème qui se posait de déformation dans les parties supérieures de la tour. Du coup la solution c'est vraiment de rapprocher le capteur de l'édifice, et là pour le coup le drone s'avère vraiment très utile là-dessus. Donc l'objectif du relevé c'était de faire un relevé photographique des quatre faces de la tour pour produire des orthoimages de chaque façade. Le but c'était pas de produire un modèle 3D entier de la tour. C'était vraiment, moi je voulais vraiment juste les orthoimages pour pouvoir redessiner dessus, quoi. Donc on a fait un survol de chaque façade avec une prise de photo du drone en continu, hein, quasiment c'est toutes les secondes, je crois, c'est ça.
C'est deux par seconde.
Deux par seconde, voilà. Donc c'est vraiment assez, c'est très rapide, afin d'obtenir une très bonne donc couverture de l'objet, hein, l'espèce de recouvrement, le fort recouvrement dont j'ai besoin pour faire ma photogrammétrie. L'idéal, c'est d'avoir 80% de recoupement entre les images. Ça, on l'a clairement eu. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un élément d'une image doit être visible sur au moins 3 autres images pour avoir une photogrammétrie qui fonctionne bien. Ce qu'on devait également éviter, c'était les écarts de lumière et les éléments mobiles. Il y avait de la végétation qui était présente sur la tour. Bon, ça, on n'est pas allé l'enlever à la main, c'était pas possible. Bon, les écarts de lumière, ben, on a dû faire avec en faisant un petit traitement après sous Photoshop.
Ouais. Bah, du coup, en fait, on découvrait aussi les aspects techniques du vol. Genre, on avait planifié un vol à 9h, le temps qu'on se mette en place, que le garde champêtre vienne faire la circulation. On a commencé par une face et on s'est pas aperçu qu'il y avait le soleil levant. Et donc, du coup, on avait le soleil en plein dans l'objectif. Donc, du coup, c'est vrai que maintenant j'ai tendance à privilégier des vols plutôt entre 11h et 14h, de manière à ce que le soleil soit le plus haut possible. Notre premier vol, j'avais juste oublié de nettoyer mon objectif. Donc on a des photos qui sont un peu voilées parce que il y avait une trace de doigt. Donc voilà, il a vraiment essuyé tous les plâtres avec moi, des choses que maintenant je ne fais plus. Enfin, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais voilà, il y a un perfectionnement qui s'est fait. Mais je remercie Thomas d'avoir joué ce jeu-là parce que moi, il fallait que concrètement je teste sur un véritable projet. Et lui avait besoin du drone et voilà, il m'a excusé de mon manque de professionnalisme, mais voilà, on va se rattraper.
Non, mais ça s'est très bien passé. Je vais vous montrer les résultats au final. D'ailleurs, je pense que je les ai juste après. Non, là, c'est vraiment le.
À partir de quelle hauteur c'est conseillé de...
Vous avez utilisé le drone, mais à partir de quelle hauteur c'est l'autre système est mauvais?
C'est pas qu'il est vraiment mauvais.
Disons moins performant.
Vraiment de la configuration du site, du relevé, et puis vraiment du capteur que vous allez employer. Le problème, c'est que si vous faites une photogrammétrie à partir du sol, sur une élévation qui fait 18 mètres comme la tour, enfin 20 mètres comme la tour de Saint-Paul de Cormery, à partir de 10-12 mètres, ça va commencer à devenir moyen, même pas assez précis, je pense. Puis c'est vraiment les déformations qui sont trop importantes.
Donc 5 mètres, c'est un mur maximum qu'il faut prendre.
10 mètres, je pense. Peut-être que Mathieu.
Ça dépend du recul qu'on a.
Ça dépend du recul.
Oui. En fait, ça dépend beaucoup du recul que vous avez. Ça dépend de la forme de l'édifice ou de ce que vous relevez. S'il y a des surplombs qui vont masquer des parties à relever, donc des corniches, etc. Toutes ces parties de l'édifice qui ne sont pas sur les photos seront des vides, en fait, dans le modèle que vous allez construire. Donc, d'où l'intérêt du drone qui permet une couverture homogène à des distances contrôlées, régulières, sur l'ensemble de la façade.
D'accord, je vous remercie.
Donc dans le contexte, là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a vraiment un retour vidéo sur la tablette qui est ici. Et bon, Jean-Philippe, lui, aurait les yeux rivés sur le drone qui vole très très près de la tour. Là, c'est une petite gif pour vous montrer les photos prises par le drone en plein vol. Donc moi, j'ai vraiment le même retour vidéo sur la tablette qui me permet donc d'indiquer au pilote si la captation se passe bien ou s'il y a besoin de se mettre un peu plus à droite, un peu plus à gauche, si j'ai bien tous les éléments que je veux sur le capteur.
Parce que du sol, c'est super difficile de savoir à quelle hauteur on se situe. Donc le retour vidéo, il est obligatoire.
Clairement, ce qu'un vol à vue, c'est quand même assez difficile pour un pilote de drone à gérer quand on vole à 1 mètre d'un bâtiment comme une tour. Parce qu'avec un petit écart de vent, etc., ça peut très vite bouger.
On peut très vite finir dans le mur aussi, voilà. Comme ça nous est arrivé une fois.
C'est ça. Donc du coup, là, ça serait une partie du traitement photogrammétrique qui est effectuée donc sous Photoscan sur une des façades de la tour. Donc à partir des pixels, il m'a créé le modèle, on va dire 3D quand même, hein, parce que vous avez vraiment, c'est quand même une carte de profondeur, hein, vous avez les distances qui sont respectées là pour les baies ici par rapport au niveau de mur. Et il va également me créer de l'information, là c'est ce qui est ici, ce qui est en bleu, que je vais supprimer, parce qu'elle ne m'intéresse pas, c'est vraiment une information parasitaire. Et là, je vous ai mis donc la comparaison entre une photogrammétrie qui a été effectuée au sol. Alors, pour votre question tout à l'heure, par exemple, pour cette photogrammétrie, j'ai quand même dû me déplacer à 50-60 mètres de la tour afin d'avoir la couverture suffisante pour prendre la tour en entier. Clairement, il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas faute. De dire. Vous voyez vraiment la différence au niveau de la déformation, c'est la partie supérieure. Hein, parce que sur cette partie inférieure, on va dire que la photogrammétrie au sol, c'est largement satisfaisant. À partir de ce niveau-là, c'est là où on voit toute l'utilité du drone. Ici, j'ai aucune déformation sur mon image. Elle est dans le plan, elle est normée et tout, il n'y a pas de problème. Tandis que là, clairement, là-haut, vous voyez bien qu'il y a une espèce de déformation vers le haut, parce que mon objectif était orienté de cette manière quand j'ai pris des photos et quand j'étais au niveau du sol. Donc, je vais vous montrer juste deux exemples d'utilisation qu'on peut en faire derrière, à savoir une image très précise. Là, c'est ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir comparer avec ce relevé qui avait été effectué à la fin du 19e siècle sur la tour, et pour voir l'état. Alors, l'image est un petit peu sombre. Ça, c'est du capteur qui était sale, je pense.
Ah, je pense que c'est... Là, c'est sûr.
Et du coup, c'était voir si les frises qui étaient encore en place à la fin du 19e étaient bien visibles à 12 mètres là, au niveau de la tour. Et ça me permet donc d'étudier précisément avec une image avec une très très bonne résolution pour voir si le dessinateur du 19e siècle ne s'est pas trompé ou il n'a pas trop inventé de choses quand il a fait son relevé.
Alors, juste là, on voit les limites de la GoPro. En préparant ce matin la présentation, on s'est aperçu que là, cette partie-là notamment, on mériterait d'y retourner avec un meilleur appareillage. Je pense qu'un de ces quatre, on va y retourner et on ira chercher peut-être que cette partie-là. Mais avec un meilleur optique. Quoi.
Un meilleur optique. Après, si on regarde quand même cette image, on peut se rendre compte que là, c'est une captation qui est prise avec un réflexe. Bon, de base, c'est un Pentax, 12 millions de pixels, capteur APC, je ne sais plus comment on dit, APS. Donc quand même, un bon appareil avec un gros capteur. Là, on est sur un capteur de GoPro qui est vraiment minuscule, qui est tout petit. Et pourtant, la résolution sera bien meilleure puisqu'on est vraiment très proche de la paroi. Et parce qu'on a pu prendre beaucoup d'images pour faire le relevé 3D. Donc malgré tout, là, si on devait comparer les deux, même le capteur GoPro, il est largement supérieur du fait du vol. Enfin, deuxième utilisation, par exemple, quand je vous disais que nous, en archéologie bâtie, on redessine sur les murs, clairement, là, j'ai pu aussi produire une ortho-image très précise, avec une très bonne résolution, qui m'a permis de travailler sur les différentes phases de ce premier étage de la tour, qui a été beaucoup modifié au cours du 11e siècle. Et d'avoir une image si précise, ça m'a même permis de voir qu'il y avait non pas deux faces qui étaient déjà connues, hein. On a trois fenêtres à l'origine qui ont été bouchées pour en mettre deux, mais ici on a des petits claveaux qui apparaissent, qu'on a pu voir sur l'image du coup, qui étaient très difficiles à voir du sol, qui fait de la couleur de la pierre, et donc du coup on a une troisième face qui vient se glisser entre les deux, là, la rouge et la jaune, face de construction. Voilà, c'était pour un petit exemple sur le bâti. Enfin, dernière image que je souhaitais vous montrer. Clairement, là, sur le drone, le but, c'était vraiment de produire des ortho-images de façade. Donc, une seule image, c'était ma problématique. Avec le drone, vous pouvez très bien essayer de faire des modèles 3D complets d'un bâtiment. C'est ce que les gens font souvent maintenant avec le drone, comme c'est le cas pour une église, pour cette église-là. C'est une boîte privée qui avait fait ça. Donc, voilà, c'est vraiment la problématique qui va guider la manière dont vous allez... travailler le type d'acquisition d'image que vous voulez faire derrière avec le drone. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions ? Non. On va passer la parole à Mathieu. Donc moi je travaille au conseil départemental d'Indre-et-Loire et je suis membre de la MSH parce que j'appartiens. Donc je suis membre, comme Thomas, du LAT, le Laboratoire Archéologie et Territoire, chercheur associé. Et donc le conseil départemental est propriétaire de nombreux monuments, dont deux assez emblématiques qui sont le château de Chinon et le donjon et logis royal de Loches, sur lesquels on est amené à intervenir régulièrement. Et on va également intervenir dans les années qui viennent sur le rempart de la cité royale de Loches, qui va être nettoyé, consolidé, repris, parce qu'il y a des nombreuses parties qui sont actuellement dégradées et qui menacent en fait les habitants qui sont juste en dessous. Donc il y a un gros programme en fait qui va être fait dans les trois années à venir, qu'on va suivre, puisque toutes ces interventions de nettoyage du rempart, de reprise,
vont le modifier. Donc on fait les observations avant modification. Donc là, on est dans un cadre de ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc c'est une intervention archéologique avant une modification d'un site, d'un monument historique en l'occurrence. Alors le problème de ce genre d'édifice, c'est leur amplitude. C'est-à-dire que la loge, c'est plusieurs kilomètres de rempart à observer dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Donc on pourrait faire des photos depuis le sol, comme le disait Thomas, mais ça pose des problèmes, puisqu'on n'a souvent pas assez de recul, et puis on a en bas de rempart une très bonne définition de photo, mais en haut de rempart une très mauvaise, puisqu'il y a plusieurs mètres d'élévation. Du coup, on a fait appel à Jean-Philippe pour les relever, et là vous avez le résultat en fait d'un levé qui a été fait sur 60 mètres de rempart à peu près, à côté de la porte royale. Et donc là, on a bien au final un modèle 3D qui nous permet, comme Thomas, de tirer des orthophotos en fait du rempart pour faire nos observations, les relevés, mesures et autres, qui permet également de tirer des coupes du rempart, soit verticales, soit longitudinales, pour voir en fait le profil du rempart, les emplacements où il y a des affleurements rocheux. Et donc noter, comme le fait Thomas, en fait, les différentes phases de construction, de reprise du rempart. Donc là, pour illustrer un peu ce qu'il expliquait tout à l'heure, on part bien de photos. Les photos, vous les voyez là, en fait. Voilà les photos du drone. Tous ces carrés bleus sont les photos qui ont été utilisées pour la reconstruction du rempart. Si on regarde de dessus, on voit le déroulé en fait du vol qui s'est fait donc à une distance assez régulière de la façade, avec des contraintes qui sont liées, alors qu'on ne voit pas ici, mais il y avait des arbres, il y avait de la végétation, des barrières, donc il y a des zones qui sont plus difficilement couvertes. Et vous voyez que les logiciels en fait qui font de la photogrammétrie maintenant sont assez performants pour ne pas être gêné par le fait que les photos sont prises à des distances différentes, donc avec des niveaux de zoom différents, et avec des angles qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Le logiciel en fait repère sur les photographies qui sont prises les points communs entre les photos, comme le disait Thomas. Donc ça, c'est cette première étape. Voilà ce qu'on obtient en fait au tout départ. Donc on a ici un nuage de points communs entre les photos. Je vais enlever les photos en question. Évidemment, plus on est proche du rempart et plus les photos sont contrastées, plus le nombre de points de corrélation entre les photos sera important. Alors là, on voit qu'on dépasse largement le rempart. On a les arbres au-dessus, enfin toute une série de scories qui vont être enlevées après sur les modèles suivants. Donc là, on a le parc du logis royal. À partir de ce premier nuage de points, en fait, le logiciel construit ce qu'on appelle le nuage dense. Donc là, à nouveau, qui n'est pas nettoyé, on voit toutes les scories, y compris dans la rue avec la végétation qui nous gênait, etc. Et c'est à partir de... Donc là, on a bien un nuage de points, comme le disait Thomas. Si on zoome, si j'y arrive, voilà, avec ma molette de souris qui fait des siennes, voilà. Vous voyez, là, on voit la définition, en fait, de ce nuage dense de points. Il y a à peu près un peu plus de 41 millions de points dans ce nuage dense de points. Donc dès qu'on est assez éloigné, en fait, on a l'impression d'une surface continue. Et c'est à partir de ce nuage dense que va être créé en fait les surfaces qu'on peut avoir de deux manières, soit grossièrement texturées ou brutes de décoffrage, ou le maillage, comme le disait Thomas. Et par-dessus ces surfaces, on peut donc plaquer des textures qui sont récupérées en fait à partir des photos qui ont été prises par l'appareil. Alors évidemment, on peut faire de la photogrammétrie sans drone. Là, en l'occurrence, donc avec un appareil photo, n'importe quel appareil photo numérique enregistre suffisamment de données EXIF, donc des données en fait qui sont rattachées à l'image, pour pouvoir être utilisé en fait dans ce type de logiciel. Donc là, ce que vous voyez, c'est Photoscan, dont parlait tout à l'heure Thomas, donc qui là est un logiciel payant avec deux niveaux de licence. Alors, pour les organismes de formation comme le CNRS, il y a des tarifs hyper préférentiels. Sinon, il existe également d'autres logiciels gratuits en fait qu'on trouve sur Internet, donc ou en téléchargement, on va dire assez simplement. Alors, Thomas a cité Micmac, qui est un peu compliqué à utiliser effectivement parce que c'est tout en ligne de commande, même s'ils essayent de travailler, il me semble, à créer une interface qui sera un peu plus conviviale, comme ce logiciel. Il y a également un qu'il n'a pas cité qui s'appelle Virtual SFM qu'on trouve sur Internet, qui est un logiciel gratuit également, qui permet d'aller jusqu'à la constitution du nuage dense de points, qui ne fait pas le maillage, mais qui au moins crée le nuage dense de points. Et qui est assez simple d'utilisation également. Donc c'est dans tous ces logiciels avec interface, on va dire, on va retrouver toujours le même processus qui va être l'alignement des photos, la construction du nuage dense, la construction des surfaces et ensuite les textures.
Juste une précision, à la MSH, on disposera bientôt de Photoscan qui sera sur un supercalculateur, parce que bah, c'est quand même des gros calculs et qu'un ordinateur lambda va un peu peiner. Donc il faut un matériel spécial et on l'aura bientôt.
C'est seulement souple.
Ouais, un jour.
Bah, en fait, il faut surtout, enfin, il faut un bon processeur, mais il faut surtout beaucoup de mémoire vive. Ouais. Voilà. Pour que ça aille vite, il faut ça. Donc là, on a sur le rempart traité 412 photos sur cet extrait du rempart de Loche. Hein, ça n'est qu'un tout petit bout, 60 mètres de long. Et après, quand on fait plusieurs modèles, on peut donc les aligner ensemble. Et ces modèles, évidemment, il faut les mettre à l'échelle, puisqu'au départ, quand on a un modèle numérique constitué par photogrammétrie, on a quelque chose qui est cohérent en soi, mais sur lequel, a priori, le logiciel n'est pas capable de calculer une distance, puisqu'on ne lui a pas indiqué l'échelle de l'objet. Donc ça pourrait très bien être 10 cm de long comme un kilomètre. Donc pour ça, en fait, on rajoute sur le modèle des points de repère, quelques points de repère. Un minimum de 3 suffit, mais c'est mieux d'en avoir un peu plus pour voir, essayer de mesurer un peu l'erreur de prise de mesure. Donc là, vous voyez, il y a 6 points qui ont été pris au tachéomètre laser sur le rempart, pour lesquels on rentre des coordonnées, ce qui permet après, d'abord, de mettre à l'échelle le modèle, mais également de l'orienter, puisque là, donc, on a des coordonnées qui sont données en Lambert 93, qui permettent après, justement, au logiciel de se repérer, de savoir quelle est la vue de dessus. Donc là, une vue de dessus orientée. Donc là, on est sur le... Si on projetait ça sur le SIG, comme là, par exemple, et qu'on superposait d'autres données du SIG, cadastral, relevé de fouille, autre chose, les choses viendraient se superposer parfaitement. Si je reviens sur mon rempart, voilà. Donc là, on a un modèle orienté à l'échelle qui peut être exporté donc en orthophoto vers le SIG, qui peut être exporté également en modèle numérique vers le SIG, ce qu'on appelle un DEM, Digital Elevation Model, donc que je vous ai mis ici. Voilà. Tous les pixels de l'image ici ont une altitude qu'on peut retrouver. Et sur le SIG, on peut à nouveau là tirer des coupes du rempart pour voir son profil en divers endroits. Donc plutôt que sur le terrain prendre beaucoup de temps pour essayer de relever ce profil de rempart, avec une série de photos comme ça, où, en fait on a quoi, une grosse demi-journée de prise de vue, on a une grosse journée de calcul pour constituer le modèle. On a un petit peu de temps à passer sur le terrain pour prendre les points de repère, et après en fait on tire autant de coupes du rempart qu'on le souhaite. De la même manière, les données de base qui sont produites par le logiciel de photogrammétrie, et notamment le nuage dense, peuvent être exploitées dans d'autres logiciels de gestion de nuages de points, par exemple Cloud Compare, qui est aussi un logiciel gratuit, qui est
ImageLab.
Enfin voilà, il y a toute une série de logiciels gratuits sur Internet qui permettent de réexploiter toutes ces données qui sont produites par le logiciel de photogrammétrie.
Juste peut-être sur l'échelle, si vous n'avez pas forcément tous un tachyomètre sous la main, vous appartenez pas un service d'archéologie, vous pouvez aussi, la méthode qui est un peu moins précise, c'est de prendre des mesures sur le bâtiment et indiquer sur votre modèle 3D, j'ai telle distance entre mes deux points ici.
Voilà, donc là, on aura une mise à l'échelle, et éventuellement une orientation si on a repéré une horizontale. Mais on n'aura pas une projection dans un système de coordonnées géoréférencées sur le SIG. On sera en local, ce qui est possible aussi. Et ce qui est d'ailleurs nécessaire de faire, si on veut tirer des orthophotos simplement là, des modèles qu'on produit, là, l'orthophoto que je peux lui demander, en fait, pour lui, elle va être forcément vue de dessus. D'accord ? Parce qu'on est dans un modèle où on a des coordonnées qui sont dans une projection définie, qui est le Lambert 93. Donc si on veut avoir une vue orthophotographique du rempart correcte, il faut transformer ces coordonnées en Lambert 93 en coordonnées locales pour pouvoir lui demander une orthophoto contrôlée en vue de dessus. Donc là, je suis à nouveau en vue de dessus, mais parce que j'ai transformé mes coordonnées et que donc pour lui, maintenant, je lui ai fait croire que le rempart était en fait à plat. Voilà. Grosso modo, ça me permet après de tirer à nouveau une orthophoto que je peux réexploiter sur le SIG, mais cette fois-ci en coordonnées locales, pour faire des documents à destination de divers utilisateurs, vers des logiciels de DAO, etc. On peut également l'utiliser, on peut à nouveau faire un DEM, enfin donc un modèle numérique, qui permet après de voir les différentes profondeurs du rempart, et donc les différents profils du rempart, et ces vues-là permettent de tirer donc des profils longitudinaux du rempart. Donc ça, c'est un exemple sur Loche, mais on a fait aussi un peu le même travail, c'est en cours, sur Chinon. Celui-là, par exemple. Donc où là, on a un travail en cours. Vous voyez qu'on a une partie du rempart de la forteresse. On a mis des points de repère sur le mur. Ce sont ceux qu'on va relever au tachyomètre en fait pour caler notre modèle. Et en fait, il y a donc les relevés se sont poursuivis depuis. On va essayer de faire un tour complet de la forteresse. Donc voilà, parce qu'on aime bien les challenges. Et je vous disais donc qu'en plaçant des coordonnées sur nos modèles, on peut les orienter, faire des orthophotos, etc. On peut également rabouter des modèles dans le logiciel Photoscan à partir des coordonnées qui sont indiquées. On peut additionner une suite de modèles qu'on a pris à différents moments, à différentes étapes du travail sur un édifice. Voilà. Donc, puis il faut bien se dire aussi que pour un certain nombre de personnes, ça fait des documents à ses vendeurs. Voilà. Pour être clair, il y a aussi cet intérêt là il y a donc l'intérêt évidemment d'un accès rapide, très aisé, à des édifices qui sont extrêmement vastes, extrêmement complexes. Il y a l'intérêt de l'archéologue, ou enfin disons de l'historien archéologue du bâti, pour le relevé des façades qu'il veut étudier. Mais il y a également un intérêt, vis-à-vis de décideurs, pour leur montrer en fait des choses qui leur plaisent. Parce que c'est vrai que voilà, faire tourner la forteresse de Chinon en trois dimensions,
ça plaît.
Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Après, il y a encore, bon, il y a peut-être des choses dont on peut parler, mais des choses à voir, à étudier en plus en détail. C'est là, on fait les extérieurs des édifices, donc c'est relativement facile d'accès. Si on devait faire des intérieurs, pour l'instant, il y a quand même des problématiques un peu techniques à bien envisager avant de se lancer là-dedans, notamment pour le pilotage du drone. Mais ça t'en parlera mieux. Mmh.
Ouais, parce qu'après, il y a toutes les problèmes de sécurité. Logiquement, j'ai pas le droit de survoler des personnes. hormis les personnes qui sont déclarées, en gros, sur le document que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, sur Chinon, on se posait le problème de... Tant qu'on longe la façade, ça va. Il y avait besoin de la survoler légèrement pour pouvoir avoir l'angle. Et nous, en fait, on se positionne, on est vraiment tout en bas du coteau. Donc d'avancer légèrement au-dessus de l'enceinte, je prenais un risque parce que je voyais pas s'il y avait des gens ou pas en dessous, quoi. Et comme un drone, c'est un peu comme du miel, ça attire les gens. On voyait souvent des têtes qui passaient et du coup, bon, c'est voilà, il y a quand même toutes ces consignes de sécurité à respecter. Et puis un point que j'ai pas abordé et qui est quand même franchement critique, c'est la météo. Parce qu'en gros, on peut planifier des missions et puis l'annuler le matin même parce qu'il y a trop de vent, un peu de pluie, trop de brouillard. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout, mais qu'il faut prendre en considération. Donc, j'ai pris l'habitude, par exemple, sur une mission comme à Chinon, je déclare 3 jours. Et puis, ça nous permet d'avoir une certaine souplesse et de s'adapter par rapport à la météo du jour ou pas. Pour l'instant, j'ai annulé une mission. Et puis après, Chinon, on a rencontré des petits soucis. On a fait un vol. On a volé 10 minutes. Je me suis reposé pour changer la batterie. Vous voyez, les batteries, c'est ça, c'est des batteries lipo. Ça, c'est des choses qui sont améliorables parce qu'avec un truc comme ça, c'est 1h30 de recharge et 10 minutes de vol. Donc, c'est pas encore super rentable. Les nouvelles générations, les fantômes, là, ils ont des batteries qui permettent d'avoir déjà 25 minutes d'autonomie. Donc, on est déjà sur des choses plus sympas. Mais donc, à Chinon, on fait notre premier vol. Je me repose pour changer ma batterie. Et là, il a plus jamais voulu décoller. Retour au bureau. Analyse du truc, et en fait il y avait eu, je ne sais pas par quel moyen, la télécommande qui s'est déréglée, ce qui m'était jamais arrivé. Donc il a fallu que je la réinitialise au bureau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme souci ici? Avec
un tachéomètre, oui,
qui émettait des ondes, et du coup nous on balayait toute la façade, et à un moment j'étais bloqué avec une sorte de mur invisible. Je pouvais reculer, avancer, retourner sur ma gauche, mais la droite était bloquée. Et en fait, on s'est donc posé, pas prendre de risques. On a laissé le tachéographe finir son boulot. Il l'a éteint et j'ai pu prolonger le vol. Donc voilà, il y a ces histoires d'ondes sur lesquelles il faut se méfier.
Il y avait des interférences en fait entre parce que c'était un tachéomètre robotisé, donc avec un seul opérateur et la tête de l'appareil qui le suit en fait au fur et à mesure de ses déplacements. Donc il y a une liaison radio en fait entre l'opérateur et l'appareil, et c'est cette liaison radio qui interférait en fait avec la liaison radio de l'appareil de Jean-Philippe. Donc on l'a découvert comme ça. Enfin, c'était la seule explication possible, et c'est effectivement dès qu'on a éteint l'appareil, le tachéomètre, ça s'est très bien passé. Sinon, pour les photos, ce que je vous conseille, enfin, on parlait du temps là, le mieux du mieux, c'est un temps clair et couvert, c'est-à-dire sans soleil direct, hein, pour éviter au maximum d'avoir des ombres portées. Voilà, c'est l'idéal.
Voilà. Oui.
Et alors, comment ça se passe si on n'a pas le droit de survoler des gens mais qu'on est en agglomération? C'est des hauteurs de vol,
Non. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on établisse une sorte de périmètre de sécurité. Et c'est pour ça que voler tout seul, ce qui a été dit tout à l'heure, est un peu compliqué. Le top, c'est 3. Il y a le chercheur qui dirige le retour, le pilote. Et puis une troisième personne qui va essayer de faire un peu la police et d'éviter que les gens soient survolés. Ça m'est arrivé quand on a fait le déversoir de la Bouillie. On était sur un petit chemin qui a l'air d'être un truc de balade pour les gens à pied et en vélo. Et donc du coup, voilà, on essayait de les bloquer le temps de finir notre vol, quoi. On n'est jamais à l'abri, donc vaut mieux s'entourer de plus de précautions. Moi j'ai déjà pris un coup d'hélice dans le pouce, ça fait super mal, quoi. Donc l'hélice plus le drone qui tombe, je pense qu'on peut blesser quelqu'un. Donc voilà. Mais en étant professionnel, on peut aller dans des zones qui sont, soit, enfin, où il y a des gens. Donc on fait une protection et puis on a le droit de voler en ville à partir du moment où c'est déclaré, quoi.
Là, on a une notion de propriété.
Ouais.
C'est du droit, là, carrément.
Là, on a eu le cas, justement, à Ville-Loin-Coulanger, puisqu'il fallait qu'on pénètre sur un champ. Donc là, j'avais demandé l'autorisation du propriétaire. Mais là, c'était particulier, parce qu'on était sur sa propriété. Après, c'est pas les problèmes de survoler des propriétés privées, c'est plus les problèmes liés à l'image.
Oui.
Alors voilà, là c'est autre chose. Le fait qu'on puisse prendre en photo des gens.
Oui, parce que pour les archéologues qui veulent faire de la restitution de bâtiments, quels qu'ils soient, s'ils sont privés, on a quelques petites interrogations à avoir au niveau de l'autorisation. Par exemple, les vues intérieures dans des prieurés, pour ma part, qui sont habités, je suis obligé, assujetti à une autorisation.
Ouais, mais par exemple, là, il est question qu'on fasse une grosse mission sur le à Montbazon. Montbazon, on est sur une propriété privée. Donc, il suffit d'avoir l'autorisation du propriétaire.
D'accord.
Mais c'est plus simple.
Écrite, on m'a dit qu'il fallait faire.
Oui, bah oui, quand c'est écrite, oui, tant qu'à faire, ouais. C'est mieux. Tant qu'à faire. Mais bon, à partir du moment où de toute façon on est sur la propriété de la personne qui a donné son accord, ouais, alors que là sur Ville-Loin, en fait, c'était un agriculteur qui a donné sa permission à une équipe de recherche. Donc il n'y avait pas un lien entre le propriétaire et la mission en elle-même.
D'accord. Merci.
Je voulais préciser par rapport au droit à l'image, effectivement, lorsque on fait la prise de vue, parce que je fais aussi le pilotage de drone, on signe en fait un droit à l'image et à l'audiovisuel. Et donc du coup, en tant que professionnel, on ne fait pas n'importe quoi avec ces images, parce qu'effectivement, même si on est au-dessus d'une propriété privée où on a l'autorisation, on a une vue sur la propriété qui est à côté. Et où on n'a pas, où on va pas demander l'autorisation sur toutes les propriétés où on va pouvoir avoir une vue, c'est ingérable. Mais on a, on se doit en fait d'utiliser les photos, à bon escient, quoi. Voilà. Donc c'est plus ça, je pense aussi, parce qu'autrement, effectivement, dès qu'on prend de la hauteur, on voit ce qui se passe effectivement sur des propriétés qui sont privées. En dehors de nos autorisations, quoi. Mmh. Hein, mais c'est effectivement notre déontologie qui va faire notre professionnalisme qui fait que voilà, on n'exploite pas ces données-là, quoi.
Bien sûr.
Voilà.
Et puis juste une petite parenthèse sur le fait de prendre des personnes à leur insu en train de bronzer nues dans leur jardin, c'est impossible. Hein, ça, quand ça se met en route, vu le bruit que ça fait, drone, ça veut dire bourdon, un faux bourdon, ça fait vraiment un bruit qui est caractéristique. Voilà, quelqu'un qui entend ça à proximité, à mon avis, il a largement le temps de se rhabiller, quoi. Voilà. Peut-être qu'un jour ils feront plus de bruit du tout, quoi. Enfin, c'est quand même 4 hélices, c'est des moteurs électriques. Non, même pas. Non, ça, moi je ne vole que avec un but scientifique.
J'ai une question d'Orléans sur internet qui demande quel type de drone pour des recherches sur les plans d'eau. Il précise pour un lac de faible grandeur.
Alors des drones qui seraient étanches, en gros. Ce serait ça?
Je sais pas, peut-être avec des flotteurs ou ils ont peur qu'ils tombent, je sais pas.
Après va se poser le problème de la distance. Alors ça, ben voilà, ça va dépendre un peu du type de lac. Je suis pas sûr de bien comprendre la question.
Ouais, je pense à ça aussi, ouais.
Par rapport à l'autonomie?
Avoir le temps de faire un retour pour revenir sur la rive ou...
Alors, je sais rien. Ce que je sais par rapport à ça, par contre, c'est que le bateau est le seul moyen mobile sur lequel on a le droit d'être pour piloter un drone. il est interdit de piloter un drone depuis une voiture et de le suivre, par exemple. Il y aurait un chauffeur, le pilote de drone, ça c'est formellement interdit. Par contre, on a le droit de le faire avec un bateau.
Alors, là on précise un peu la question. Donc oui, effectivement, il parle de l'autonomie et aussi de l'étanchéité.
Alors, étanchéité zéro. Un des problèmes principaux, c'est ces batteries-là qui sont ultra polluantes. Faire tomber un drone dans un étang, en gros, le drone, il est foutu. Enfin, on ne pourra jamais le récupérer. Mais c'est surtout qu'on va faire quand même des dégâts avec ça. Il y a des tentatives de drones flottants qui ont été lancées. À ma connaissance, je suis pas sûr que ça soit. Non, tous les plans. Enfin, moi, j'ai un peu travaillé avec le drone Contraste. C'est eux qui m'ont formé, etc. Ils m'ont montré des plans qu'ils ont fait au-dessus de la mer. C'est des drones normaux avec une gestion du risque. C'est vrai que moi, sur le projet UVED, quand il a fallu que je fasse des plans au-dessus de la Loire, je faisais pas le fier. J'en ai qu'un. Je faisais vraiment pas le fier et voilà. On prend des risques, mais il faut en prendre. Donc après, sur un lac qui est très grand, je sais pas. Moi, je me suis trouvé confronté, par exemple, parce qu'en règle générale, ce qu'on fait jusqu'à présent sur l'étude du bâti, on est à des distances relativement courtes entre ma radiocommande et puis mon drone. Quand on était à Ville-Loin, je me suis posté à un endroit pensant avoir assez de couverture pour aller au-dessus de la zone à étudier. Et en fait, je me suis aperçu qu'il était paramétré pour ne pas dépasser ses limites de ses distances. Et à 150 mètres, en fait, le drone il s'est bloqué. Je pouvais pas aller plus loin. Donc en fait, on l'a fait revenir, on s'est posé. Donc sur un lac qui serait très grand, il serait peut-être préférable de se mettre au centre du lac, sur un bateau, et de pouvoir être sûr d'avoir un rayon suffisamment large.
Bon, là, la question, c'est sur un lac de faible grandeur. Et sinon, moi, j'avais vu pas mal de vidéos de gens qui font des traversées de l'océan en solitaire, qui font des vues en drone. Donc peut-être, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais peut-être creuser de ce côté-là pour avoir une réponse.
Possible. Mais je pense que c'est des... J'en avais vu aussi, et en fait, le drone est suivi par quelqu'un qui est sur un bateau. Donc il n'y a jamais ce souci des 150 mètres. On a toujours les 150 mètres réglementaires.
Après, je dirais que c'est aussi une question de... Enfin, ça dépend de la problématique qu'on a. Parce que si on n'a pas forcément besoin d'une définition très, très grande en nombre de pixels, parce qu'en fait, c'est la définition de la photo qui va créer la qualité du nuage. Donc si on n'a pas besoin d'une très grande définition, donc on a besoin d'une vue générale en fait, d'un secteur, en se plaçant très haut, on aura, même en restant sur la rive, une vue sans doute presque globale de l'étang. Il vaut mieux d'ailleurs avoir ce genre de vue parce que les logiciels de photogrammétrie marchent par contraste. Donc si l'eau n'est pas assez contrastée, il ne pourra pas recaler les photos. Donc des photos où on ne verrait que de l'eau, il est probable que le logiciel n'y arrive pas. Il lui faut des points de contraste, donc t'es sur la rive justement avec de la végétation, d'un chemin, enfin que sais-je, pour arriver à recaler ces photos. Donc il vaut mieux avoir une couverture un peu globale, et si certains points des rives, des berges demandent une précision un peu plus grande, redescendre et compléter par certains secteurs de manière beaucoup plus précise, le logiciel s'en sortira pour reconstruire un modèle complet.
Et il existe aussi la possibilité, ça je l'ai pas encore testé, de paramétrer un vol. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des points et le drone va suivre tous ces points. Donc par exemple, pour un lac, pour être sûr de bien quadriller l'intégralité, on peut aussi planifier toutes ces trajectoires-là, quoi. Soit on reste dans le cadre de notre cylindre de rayon, enfin de 150 mètres de rayon, auquel cas on est toujours dans des conditions de vol à vue. Soit on planifie sur une superficie qui est beaucoup plus large, et là on va rentrer plutôt dans d'autres scénarios, plutôt type S2, quoi. Voilà.
Pour en revenir
au vol au-dessus de l'eau, comme tu disais, Jean-Philippe, c'est plus un problème de risque en fait, puisque effectivement on risque de crasher le drone sur l'eau et pas le récupérer. C'est cette notion effectivement de risque. Et il existe effectivement la sécurité de pouvoir faire un retour home, où le drone revient en fait à sa base lorsqu'il perd en fait ses références et la liaison radio. Or, si jamais le bateau il se déplace, le retour home, c'est c'est mort. Voilà, donc c'est cette gestion du risque du propriétaire du drone qui se dit que on a beaucoup plus de risques de survoler effectivement de l'eau que du terrain, quoi, de la terre, quoi. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là que ça joue, quoi. Et effectivement, prendre des photos en fait de l'eau, ça n'a pas grand intérêt. On reconstituera pas et ça sert à rien d'être à un mètre de l'eau pour avoir une bonne vision. Autant effectivement avoir une vue en hauteur et puis en gros au-dessus de la berge, quoi. Mmh. Ça, tout à fait.
Mais ça, on pourra en reparler lundi. Je vais à Orléans, je vais faire une mission et le but c'est de travailler sur la frontière de l'eau et de la berge. Et je vais faire ça toute la journée. Donc je pense que je vais être un peu tendu toute la journée. Mais aussi tendu que ce qu'on a vu sur Loche, où en fait on se rend pas compte. Mais on était dans une petite rue, oui, qui faisait
4 mètres de large.
4 mètres de large, ouais. Avec des lampadaires, avec des corniches, avec tout ça. Donc j'avais.
Le rempart d'un côté et des maisons privées de l'autre.
Ouais. En fait. Ouais. Et ça, c'était assez tendu. Avec Thomas, on a eu une expérience malheureuse à Beaulieu-les-Loches, c'est ça, ouais. Où là, on s'est retrouvé un peu coincé entre deux murs. Une très mauvaise réception du signal GPS et donc une très mauvaise stabilisation du drone. Je vous ai pas expliqué, en fait, il y a trois modes de pilotage dessus. Il y a le mode manuel, donc qui va se rapprocher de l'aéromodélisme. Il y a un mode qui s'appelle ATTI, qui est un mode en fait où on est en mode GPS, mais si je lâche les commandes, en fait, mon appareil va continuer à dériver. Et il y a le mode GPS,
à altitude constante,
et le mode GPS qui fait que à un déplacement lancé, si je lâche les manettes de la radiocommande, en fait, il va conserver les dernières coordonnées GPS. Et donc du coup, il va garder sa position, il va tenter de la garder en tout cas, c'est-à-dire qu'il va faire un vol stationnaire, il va même être en mesure de lutter contre une légère petite brise qui aurait tendance à le faire dériver pour essayer de conserver sa position. Et là, bah, on s'est retrouvé, à mon avis, avec deux facteurs. Un signal GPS qui était loin d'être terrible. Et puis, je pense qu'on s'est retrouvé aussi avec des belles turbulences en termes de vent, que nous, on ne sentait pas au ras du sol, mais qui était là à 2, 3 mètres. Et enfin, le drone, il s'est mis à danser. Et là, je l'ai mis dans un mur, quoi. Donc, il n'y a eu que des changements d'hélice à faire, mais...
On faisait pas
les féraux.
Jean-Philippe, les modes de navigation, tu n'as pas la possibilité de pré-programmer un itinéraire ?
Si, c'est ce que j'ai
dit. Si, c'est celui-là.
Tu n'écoutais pas.
J'avais cru comprendre que c'était... Avec tes explications, j'ai cru comprendre qu'il était stationnaire, ton GPS.
Non, mais tu peux définir ce qu'on appelle un waypoint, où tu vas mettre
des
points par rapport à une carte.
Tu planifies ton itinéraire et lui il s'occupe du reste.
Il va aller de point en point. Tu peux à chaque point spécifier s'il fait une rotation sur lui-même, s'il va faire une rotation en arrondi. Il y a plein de choses. Je ne l'ai pas testé sur celui-là parce que en termes de techno, il est un peu vieux. Aujourd'hui, ça se fait sur les Phantom 3, Phantom 4, ça se fait sans aucun souci, quoi. C'est pour ça que moi j'aimerais bien. Le message est passé, je crois, non ? En plus enregistré et tout.
Une question d'Orléans encore qui fait sans doute suite à celle de tout à l'heure. Il demande entre le pilotage automatique et le pilotage manuel, est-ce qu'il y en a un qui a privilégié ? Il précise, ce serait sur un cours d'eau d'un kilomètre de large.
Entre le pilotage automatique. Ah oui, le fait de planifier une trajectoire ? On va leur laisser les 30 secondes de latence. Bah, je dirais, enfin, j'aurais tendance à...
L'autonomie de tes batteries, un kilomètre déjà, ça commence à faire...
Ah bah de toute façon, un kilomètre, lui, techniquement, il peut pas. Il va s'arrêter à 150 mètres, il va se bloquer.
Et puis de toute façon, tu as des batteries qui vont...
Et puis, alors un kilomètre, ça peut se faire vite, parce que c'est des engins qui volent à, je sais pas, ça doit être à 50-60 km/h. Donc je pense que le kilomètre, on a le temps de le faire en 10 minutes. Mais c'est surtout le problème de cette distance, de toute façon, qui réglementairement interdit d'aller au-delà du rayon de 150 mètres en scénario S1 et S3.
Ils répondent oui.
D'accord. Oui.
C'était oui sur le, je pense, sur la précision par rapport à un trajet préprogrammé.
Ouais, donc c'est un autre type de scénario. Puisque là, on est, c'est bien ce que je dis, s'il y a un kilomètre à franchir, un petit engin comme ça, on ne voit plus passer 300
Et puis à vue.
Donc on est plus en vol à vue. Et donc c'est ce que je disais, c'est scénario S2 ou S4. Moi j'ai pas actuellement dans le map, je suis pas encore. Je ne peux pas faire ce type de scénario pour l'instant.
D'accord.
Autrement on peut le faire en faisant différentes élévations,
C'est ça.
Peut-être répéter la réponse.
Ouais. L'idée sinon c'est de couvrir ces 1 km en faisant des sauts de puce. C'est-à-dire couvrir. Et après, je ne sais pas quelle est la finalité de la captation à faire. Mais oui, sinon, c'est ça. Ça sera du saut de puce. Mais sur 1 km, je ne vois pas comment on fait sans prendre un bateau.
Ok.
Mais qui me contacte. D'autres questions ? Qu'est-ce que je peux préciser ? Si, juste voilà, ça, donc ces fameuses batteries qui sont à la fois très polluantes, sont aussi très dangereuses. En gros, quand je les recharge, je les mets dans un sac qui est anti-explosion. Regardez sur YouTube, vous allez trouver des tas. Faut pas que je secoue. Non, ça craint rien à ce niveau-là, c'est quand c'est en recharge. Il y a plein de vidéos sur YouTube, on voit exactement ce que ça fait. Ça explose vraiment très très fort. Donc en gros, moi je ne recharge pas de batterie si je suis pas dans mon bureau. Je laisse jamais une batterie rechargée toute seule. Ça se fait, enfin c'est vivement conseillé d'être fait sous un regard attentif. Et voilà.
Comme
les téléphones Samsung, ouais, c'est ça. Non, plus fort. Ouais, ça fait des plus grosses flammes, hein, je crois. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions.
Ouais. Donc, Orléans complète un peu, il y a beaucoup de latence. Et ils disent que c'est pour photographier des îles.
Pour photographier des îles, d'accord. Mais par contre, c'est toujours la problématique du lac ou de la rivière là. Parce que je connais pas un passage de la Loire qui fasse 1 km de large, quoi. Je pense pas.
Peut-être vers Marseille.
Il faudrait plus de détails en fait sur leur problématique. Ouais.
Donc prendre contact avec toi.
Ouais. Ouais, sans souci.
Question.
C'est bon. Merci.